Physique par le Père Philippe Saint-Joseph, le 8 janvier 85.
Bien reposé pendant ce temps consacré davantage à la prière. Eh bien, je vous offre mes meilleurs vœux pour l'année 85. Hein. Des vœux ici d'ordre pour l'école Saint-Jean, des vœux pour l'intelligence, et les vœux du cœur durant cet après-midi. Distinguer les différents aspects. Alors nous allons continuer cet effort de pénétration plus avant dans ce qu'est l'être. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Nous sommes en philosophie première, nous essayons de comprendre ce qu'est l'exister de l'homme tout le temps, et nous y revenons tout le temps. Et nous avons vu que l'exister de l'homme, c'est premièrement la substance, je vais pas en revenir dessus, et que c'est par là que l'homme a son autonomie d'être subsistant. C'est par là qu'il a aussi son individualité. C'est la substance qui fait tout cela. Du reste, autonomie, individualité, ça se tient très fort. Puis nous sommes entrés dans ce problème tout à fait différent, extrême, qu'est-ce que c'est que la relation du point de vue de l'être? Qu'est-ce que c'est que la relation du point de vue de l'être? En comprenant que de fait, nous sommes là en présence de deux grandes orientations philosophiques qui ont toujours existé et qui, je crois, existeront toujours. Il ne faut pas chercher l'unanimité en philosophie. Hein. Ça ne veut pas dire que les deux soient vrais, hein. Comprenons bien. Si nous cherchons la réalité dans ce qu'elle a de plus profond, si nous cherchons à comprendre ce que c'est que l'homme dans ce qu'il a de plus profond, dans son être, on est bien obligé, si on essaie d'interroger la réalité, de reconnaître que ce qui est premier, c'est une détermination radicale. Ce qu'on appelle substance. Il faut le découvrir progressivement. Une source d'unité au-delà de toute la diversité des déterminations. Et qu'il y a en nous quelque chose de radical, source de toutes les déterminations. Et qu'il y a quelque chose de tout autre. C'est vraiment tout autre. Et cependant, ça existe. C'est là où on sent très bien combien l'être a comme deux aspects diamétralement opposés, le point de vue de la substance et ce qu'on appelle la relation. Je crois que ça, c'est très important de saisir combien on est là en présence de autre, autre. Deux aspects totalement différents. Et quand je dis totalement différent, je ne veux pas dire opposé. C'est notre intelligence qui les oppose et qui les met dans une position dialectique. L'être n'est pas dialectique. L'être n'est pas premièrement opposition. Il est au contraire premièrement harmonie. Il faut saluer Leibniz. Il est premièrement harmonie. Mais nous disons qu'il est premièrement analogique. C'est toute la différence qui existe entre les deux, n'est-ce pas ? L'harmonie n'est pas l'analogie, et l'analogie est au-delà de l'harmonie. Mais l'analogie fonde l'harmonie, alors que la dialectique s'oppose à l'harmonie. Et donc il y a là une position qui est intéressante à voir, pourquoi nous disons analogique et non pas harmonie. Et ça, c'est important de bien comprendre cela. Eh bien, nous le saisissons tout de suite, je crois, dès que nous regardons le point de vue de la substance et dès que nous regardons le point de vue de la relation. Nous voyons là qu'il y a tout de suite deux aspects, tout autre, mais pas opposés. Le relatif n'est pas opposé à la substance, bien qu'il puisse sembler opposé, s'opposer. Si on faisait la spiritualité de la substance et la spiritualité du relatif, alors je les opposerais immédiatement. Mais il n'y a pas de spiritualité de la substance, puisque la substance est saisie comme un principe et que le relatif est saisi comme un mode de l'être. Mais il faut bien comprendre que dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de la philosophie, de fait, nous voyons comment le relatif ou la relation va devenir rival de la substance. C'est très curieux de voir ça. Et il faudrait vraiment comprendre pourquoi cette rivalité s'est introduite. Et comme on demande pourquoi, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu devient rival de l'homme. Comment cette rivalité s'est introduite? Ici, on est au cœur de la recherche sur ce qu'est l'être, dans ses diverses déterminations, et on se pose la question, comment ce qui normalement est harmonie est devenu rivalité? Comment ça s'est fait, cette rivalité? Et d'où vient cette rivalité? Et je crois que cette rivalité provient du fait qu'on met la relation en premier. Si je mets la substance en premier, il ne peut pas y avoir de rivalité. La substance étant par nature première ne rivalise avec rien. Ce qui est premier par nature ne rivalise avec rien. C'est ce qui est second par nature, quand il veut devenir premier, qu'il rivalise avec tout. Et ça, c'est vrai dans notre vie, au niveau psychologique et au niveau moral. Oui. On est jaloux si, étant second, on veut être premier. Si on reconnaît qu'on est second, qu'un autre passe avant nous. Ce n'est pas désastreux. Il ne va pas nous manger. Mais c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître notre limite. Alors, on va à tout prix être premier. Réfléchissez à ça, parce que c'est important pour saisir comment est née la rivalité du relatif par rapport à la substance. Étant donné qu'on est là en présence de quelque chose de tout à fait premier, hein, c'est très important. Vous savez, réfléchir sur la substance, on ne perd jamais son temps. Réfléchir sur le relatif, non plus. Parce qu'on est en présence de deux extrêmes de l'être. De deux extrêmes. Et c'est du reste là qu'on voit que l'harmonie n'est pas suffisante. Ce serait intéressant de se poser la question. N'est-ce pas? Si vous êtes en face de Lucia et de vous avez un nom, un nom. Ça, c'est pour que vous compreniez mieux ce que c'est que l'analogie. C'est autre, autre. Chaque fois que vous téléphonez, n'oubliez pas. Allô, allô. Autre, autre. Alors, c'est l'analogie. Si vous mettez l'harmonie, y a-t-il une harmonie possible entre Ousia et relation? Ça, c'est une grave question. Je vous la pose parce que j'aime bien que vous y réfléchissiez et que c'est intéressant à le voir. Et vous comprenez que c'est difficile de voir une harmonie parce que l'usia est en soi et la relation est vers l'autre. Est-ce que en soi et vers l'autre peuvent être en harmonie? Qu'ils soient autres, autres, très très bien. Ils existent tous les deux, mais ils n'ont rien de commun. S'ils n'ont rien de commun, peut-il y avoir une harmonie? Alors, c'est là où on voit que si on met l'harmonie comme quelque chose de très très fondamental, on demeure au niveau de la vie, on ne demeure pas au niveau de l'être. On ne va pas plus loin. La vie est harmonie, mais pas l'être. L'être est analogique. L'être a quelque chose, si vous voulez, de tout à fait particulier, qu'il peut se diviser. briser d'une manière tellement radicale qu'il supprime l'harmonie. Essayer d'harmoniser la substance et la relation, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. C'est autre, autre. Alors quand c'est autre, autre, il n'y a pas d'harmonie. Il y a une diversité radicale, fondamentale, et une unité au-delà de cette diversité, une unité dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est. C'est quelque chose de très particulier. Alors, on doit essayer de comprendre justement comment l'être va se diviser en substance et relation. Alors, premier problème, nous avions vu les topiques, hein, je ne reviens pas là-dessus. Premier problème, la relation existe. Déjà pas si commode que ça. Le tiesti de la relation, du moins, pas le tiesti, le aisesti. La relation existe-t-elle? Ou est-ce que la relation n'existe que dans mon intelligence? Toute une série de philosophes veulent considérer que la relation n'existe que dans l'intelligence. Donc, c'est un être de raison. Mais la relation n'existe pas réellement. Et je vous dis, le point de vue très simple, je suis relatif à mon ami meurt. Je ne suis changé en rien et la relation disparaît. Donc, ce qui prouve bien que la relation n'est quand même pas quelque chose de réel. Et c'est vrai que c'est pas si commode comme ça. Vous n'avez jamais touché une relation. Quelle belle relation. Caressez votre relation. Quelle belle relation. C'est impossible. C'est l'intelligence seule qui saisit la relation. Comme telle. Ah, vous saisissez telle ou telle relation dans ma vie, psychologiquement. J'ai conscience d'être relatif à. J'ai conscience d'être tout entier tourné vers. Psychologiquement. Dans mon cœur. Dans ma connaissance. Alors, j'ai conscience de ça. Mais est-ce que c'est quelque chose que je peux toucher? Autrement dit, l'existence de la relation m'est donnée dans un jugement d'existence qui est au-delà de la simple sensation. C'est évident. C'est pas dans la sensation que je saisis la relation. C'est mon intelligence qui découvre. Mais mon intelligence découvre quelque chose qui existe réellement. Et alors, pour bien voir comment ça existe réellement, je prends l'amour d'amitié. C'est très vrai que quand mon ami meurt, l'amour d'amitié disparaît, c'est très vrai, et que je ne suis pas changé. Ah, attention, je ne suis pas changé. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas changé fondamentalement, mais je suis changé dans mon exercice. La preuve, c'est que je serai tout isolé. Je ne pourrai plus exercer mes diverses opérations de la même manière. Je serai seul. Vous voyez, sentir sa solitude, hein? Sentir sa solitude. Triste expérience. Sentir sa solitude. Je suis comme seul. Et qu'est-ce que ça vient? L'expérience de la solitude. Est-ce que l'expérience de la solitude, c'est l'expérience de l'oubliant? Est-ce que par le point de vue de Lousia, vous avez l'expérience de la solitude? L'expérience de l'autonomie n'est pas l'expérience de la solitude. Parce qu'ordinairement, la solitude fait l'expérience de mon non-autonomie. Si vous étiez complètement autonome, vous n'auriez jamais de solitude. C'est curieux. Je sens la solitude toujours négativement par rapport à celui vers qui je suis relatif. Je suis relatif à l'ami. L'ami disparaît. Donc cette relation d'amour, d'amitié disparaît, et c'est à ce moment-là que je sens la solitude. La solitude, c'est une négation d'une relation. C'est pas du tout la substance. C'est tout à fait autre chose. Et c'est intéressant de sentir, d'avoir l'expérience de cette non-relation, pour comprendre que je suis seul, je suis plus relatif à un autre. Oui, donc, la solitude est au niveau d'un manque, mais pas au niveau de l'autonomie. Quand je sais, du moins quand je n'ai pas l'expérience de mon autonomie au niveau substantiel, j'affirme que j'ai l'autonomie substantielle dès que j'ai découvert ce que je suis dans mon être. Cette autonomie que je découvre n'est pas du tout l'expérience de la solitude. Celui qui est autonome n'est jamais seul. C'est très curieux. C'est du reste très intéressant à creuser, ça. Il y aurait autonomie, solitude, amitié. Alors, vous comprendriez que l'autonomie est autre chose que la relation et autre chose que la non-relation. La non-relation d'amitié me donne l'expérience de la solitude, l'expérience de l'isolement. Ce sont des thèmes très connus aujourd'hui, alors c'est très important de bien les situer, vous voyez. C'est vrai, l'isolement, la solitude, c'est très important. À quel niveau vous situez ça? Vous le situez au niveau de la non-relation. Moi, je suis isolé, personne ne vient me voir. Comme je suis seul, personne ne vient me voir. Votre autonomie, c'est tout à fait différent. Tandis que vous ne pouvez pas exercer la relation. Vous ne pouvez pas être relatif à quelqu'un, personne ne vient vous voir. Donc vous appuyez sur personne. Donc c'est la non-exercice, le non-exercice de la relation d'amitié qui vous fait cette solitude, qui fait l'isolement. Alors creusez un peu plus, vous n'aurez plus d'isolement. Retrouver la possibilité d'être relatif à quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui est au-delà. Et ça, c'est par l'ousia, par l'autonomie. Tandis qu'au contraire, si vous luttez contre l'isolement en essayant de boucher le vide, voyez, alors vous tombez dans l'agitation. Et vous cherchez à tout prix de vous appuyer. À ce moment-là, c'est vous créez des relations, vous vous mettez relatif à quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à dépasser votre sentiment d'isolement, votre sentiment de solitude. Ce sentiment d'isolement et de solitude que vous avez, que vous pouvez ressentir très fort à certains moments, ce sentiment d'isolement, bien, vous n'irez pas à le supprimer sans un dépassement de la solitude. Retrouver l'autonomie. C'est parce qu'il y a un manque d'autonomie que vous sentez l'isolement. Je dis ça pour qu'on essaie de comprendre cette expérience de la relation, du relatif, dans l'ordre de l'amitié. Dans l'ordre de l'amitié, j'ai l'expérience d'être relatif à quelqu'un, d'être dépendant de cette personne qui est mon ami, et en même temps de recevoir de lui. J'ai donc une expérience d'une relation mutuelle. Une relation mutuelle entre deux amis. Et cette relation mutuelle, elle existe. Elle existe, elle relie deux personnes. Je ne mets pas en doute l'existence de cette relation. C'est pas imaginatif. L'autre qui est l'ami, vient confirmer que cette relation est réelle. C'est même un des rares cas où je peux avoir une confirmation du jugement d'existence. C'est même très curieux. D'habitude, le jugement d'existence, je le pose tout seul. C'est vrai, vous posez le jugement d'existence tout seul. Je touche ça, c'est pas vous qui touchez. Je touche table, je suis seul dans ce jugement d'existence. Tandis que dans le jugement d'existence par rapport à l'ami, l'ami confirme, je t'aime, tu existes, tu es là présent. Oui, je suis là présent. une confirmation du jugement d'existence, parce que l'amour d'amitié implique quelque chose de mutuel. Alors, il y a une confirmation du jugement d'existence. On reconnaît que l'ami existe, qu'il existe pour moi, comme moi j'existe pour lui. Et dans cette relation mutuelle, on reconnaît cette existence fondamentale de l'autre et de moi-même. Vous voyez ? Ça, ce serait très intéressant pour ceux qui s'intéressent au jugement d'existence, et dire, mais au fond, dans le jugement d'existence, vous êtes seul à l'affirmer. Alors, l'apologétique du jugement d'existence, ce serait un mot d'amitié, vous voyez ? L'apologétique, ça n'ajoute rien à mon jugement d'existence, mais ça me confirme qu'il existe. Parce que là, nous sommes deux. Un témoignage n'est vrai que lorsqu'on est deux à l'affirmer. Quand on est seul à l'affirmer, ça ne vaut rien. Oui, point de vue moral, point de vue de la loi, c'est point de vue moral. Point de vue métaphysique, c'est bien évident que l'amour d'amitié n'ajoute rien au jugement d'existence. Mais au point de vue proprement humain, ah, c'est très intéressant. Quelqu'un qui a de la peine à saisir le jugement d'existence, prenez par le détour de l'ordre de l'amitié. Et alors à ce moment-là, vous comprenez ce que c'est que dire « mon ami existe » et que j'existe pour lui. Et donc il y a là, l'affirmation de l'amour d'amitié, dans l'exister de la relation, il y a confirmation du jugement d'existence. Parce que le jugement d'existence se présente à moi, à ce moment-là, dans une intersubjectivité. Oui. Je crois que ça, c'est intéressant à souligner pour le jugement d'existence, vous voyez. Tout se tient. Le jugement d'existence a permis de découvrir l'ousia. Qu'est-ce que fait la relation? Ah, la relation manifeste l'ousia. Et qu'est-ce qu'il y a de plus secret dans l'ousia? C'est que l'ousia fonde le jugement d'existence, puisque seule l'ousia existe, puisqu'elle subsiste. Et donc le fondement du jugement d'existence, c'est l'ousia. Mais la manifestation de l'ousia, c'est pas l'ousia. L'ousia est toujours cachée. Une manifestation très particulière, parce que la véritable manifestation de l'ousia, nous le verrons, c'est la qualité. Mais il y a une manifestation de l'ousia particulière dans l'amour d'amitié. Donc, dans l'exister de la relation. Puisque l'exister de la relation est pleinement lui-même dans l'amour d'amitié. Et je trouve là quelque chose de très particulier, puisque je vois qu'il y a un jugement d'existence qui m'est donné à l'intérieur même de cette relation mutuelle. Alors ça, c'est à réfléchir, et c'est intéressant pour montrer l'apport de l'exister de la relation par rapport à la substance. On pourra voir ça à propos de tous les prédicaments. Tous les prédicaments apportent quelque chose à la connaissance de l'être. Et donc, apportent quelque chose à la connaissance de l'ousia. Si le fondement de l'ousia, c'est le jugement d'existence, il est intéressant de voir comment l'amour d'amitié manifeste d'une manière affective. Et donc, manifeste pour moi ce qu'elle existait. Donc, première affirmation de l'exister de la relation, dans l'amour d'amitié. Je reviens à l'objection. Comment se fait-il que lorsque l'ami meurt, ma relation disparaît? Et moi, je ne suis changé en rien. Parce que, alors là, ça semble dire que l'exister de la relation, c'est un exister purement imaginaire. Alors, ça pose tout de suite le problème, que nous n'allons pas traiter maintenant, mais que nous traiterons, Ça pose tout de suite le problème. Quelle est la différence de l'être du relatif et de l'être de la qualité? Je vois qu'en effet, l'être du relatif n'est pas la qualité. C'est autre chose. Et c'est peut-être le propre de l'exister de la relation, de n'exister qu'en fonction d'un autre. C'est pas contradictoire. L'exister n'est pas toujours l'exister en soi. L'exister en soi, c'est une modalité fondamentale de l'exister. Mais ce n'est pas nécessairement toutes les formes de l'exister. Il peut y avoir un exister qui n'existe qu'en fonction de l'autre. Et au fond, c'est ça qui caractérise l'exister de la relation. Il n'existe qu'en fonction de l'autre. Alors à ce moment-là, je peux affirmer deux choses simultanément qui ne sont pas contradictoires. Premièrement, la relation d'amitié existe. Et quand l'ami meurt, cette relation d'amitié disparaît. Puisque c'est un exister vers un autre. Si c'est un exister vers un autre, il disparaît si l'autre disparaît. Mais il existe. Ça, c'est très important pour saisir ce que c'est que l'être de façon analogique. Si vous restez uniquement dans l'exister en soi, vous vous enfermez dans une univocité d'exister. Et vous avez Spinoza. Vous rejoignez Spinoza. Spinoza ne voit que ça. Exister, c'est exister en soi. Et c'est pour ça qu'en définitive, il n'y a qu'un seul qui existe, c'est Dieu. Parce qu'il n'y en a qu'un qui existe parfaitement en soi, c'est Dieu. Toute la grande vision de Spinoza. Si vous dites que l'exister, c'est uniquement exister vers l'autre, c'est l'autre position, diamétralement opposée. Parce que pour nous, nous dirons que l'exister, l'être, il est ou en soi ou en l'autre. Mais il est autre que l'en soi et autre que vers l'autre, l'exister, l'être. C'est pour ça qu'il peut être les deux. Parce que si l'être s'identifiait à l'en soi, il ne serait jamais vers l'autre. Si l'être existait, si l'être s'identifiait à vers l'autre, il ne serait jamais en soi. Donc vous découvrez bien par là que l'être est au-delà de l'en soi et vers l'autre. Et si vous identifiez l'être à vers l'autre, vous supprimez la substance. Et vous dites, la substance, elle n'existe pas. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez encore expliquer que lorsque l'ami disparaît, je ne suis pas changé? Si mon exister est uniquement vers l'autre, un autre disparaît. Celui vers lequel je suis meurt. Si mon exister est uniquement l'exister vers l'autre, je ne comprends pas comment l'autre disparaissant, moi je ne disparais pas. Puisque je n'existe que vers l'autre. Vous voyez ? Et là je suis obligé donc de dire que identifier l'être uniquement vers l'autre, c'est imaginatif. Puisque l'expérience même de l'amitié, l'expérience même de l'amour d'amitié, me montre que si l'ami meurt, je ne disparais pas. Ça, c'est une expérience de tous les jours. Hein. Au sein d'un foyer, l'époux meurt, le mari meurt, et l'épouse continue. Elle voudra quelquefois dire « je ne peux plus continuer de vivre, c'est impossible de continuer de vivre ». Je vais me suicider, c'est impossible. Oui, mais c'est elle qui dit ça, ça prouve qu'elle est autonome. Ça prouve qu'elle vit, qu'elle existe d'une façon autonome. Autrement, elle ne dirait pas ça. Il faut les prendre de ce côté-là. Ah, vous dites ça, vous prouvez votre autonomie. Tandis que si vous pleuriez seulement, vous montreriez que vous seriez tout entier tourné vers l'autre. Et c'est vrai qu'on montre son autonomie en voulant disparaître. Parce que c'est soi-même qui disparaît. Donc c'est, on montre son autonomie, on ne montre pas qu'on est totalement dépendant de l'autre. Donc, vous voyez, c'est important de saisir cet exister spécial qu'un existé dans l'intersubjectivité, dans un existé mutuel. Parce qu'on est là en face de quelque chose de tout à fait sui generis, tout à fait unique, tout à fait propre. L'existé de l'amour d'amitié, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est très différent, c'est autre, c'est pas rival, c'est autre que l'existé en soi. Alors, quelle est l'autre expérience que j'ai d'être relatif? Je suis relatif, donc ça c'est la vie. On va mettre le « ici » et le « maître ». Il y a une relation entre les deux, qui n'est plus une relation mutuelle. C'est pour ça que c'est un autre type de relation. Le disciple comme disciple, il existe. Et le maître comme tel, il existe. Si le disciple disparaît, le maître, il n'existe plus comme maître. Forcément. C'est le disciple qui permet au maître d'exister. J'ai oublié ça. C'est le disciple qui permet au maître d'exister. Et le maître permet au disciple d'exister aussi, en tant que disciple. Mais la relation n'est pas la même, elle n'est pas mutuelle. Donc l'exister du disciple a une autonomie plus grande que l'exister de l'amour d'amitié. Lui est relatif au maître. Et le maître, lui, n'est pas relatif au disciple. Ou si vous voulez, le maître comme tel existait avant le disciple, et donc, puisqu'il existait avant le disciple, c'est lui qui est source de l'exister du disciple. Tandis que je ne peux pas dire ça dans l'amour d'amitié, puisque c'est mutuel. L'amour d'amitié n'a existé que quand les deux amis se sont choisis réciproquement. Dire qu'il y en a un qui a pris l'initiative. Dire qu'il y en a un qui a pris... Mais l'amour d'amitié n'existe que dans la simultanéité. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du maître et du disciple, le maître existait avant. Vous allez me dire, mais il n'existait pas comme maître. Oui, il n'existait pas comme maître. C'est vrai. Mais le fondement, tout ce qui était capable de le faire maître, existait avant le disciple. Donc ce n'est pas une relation mutuelle. C'est une relation qui se fonde dans une action qui provient de l'un et l'autre dans une passion. Il y en a un qui agit et l'autre qui pâtit. Et c'est le résultat de cette action et de cette passion qui va permettre de comprendre la relation du maître et du disciple. Donc, là, nous trouvons l'exister d'une relation d'un type tout à fait différent que l'exister de l'amour d'amitié. Bon, nous y reviendrons à ça, simplement pour vous montrer l'exister. On ne peut pas nier que ça existe comme relation. C'est une relation qui existe. La relation entre le père et son fils. Le père et l'enfant. C'est encore une relation. Une relation qui n'est pas non plus réciproque, qui n'est pas mutuelle. C'est une relation qui existe encore. Elle se fonde sur l'action, elle se fonde sur la passion. Nous avons encore un autre type d'exister. Toujours pour essayer de comprendre, hein, que la relation existe. Mais qu'elle existe d'un type tout à fait particulier. Puisque je vois que pour essayer de comprendre son exister, je suis obligé de faire appel à autre chose que la relation. Tout de suite. Tandis que quand il s'agit de Lousia, je ne fais pas appel à autre chose. Lousia, elle existe par elle-même. Tandis que la relation n'existe pas par elle-même. Elle existe en fonction d'un autre, elle existe pour un autre. Vous avez, troisième, le point de vue de la similitude. Similitude et égalité sont des types de relations différentes. Alors, je peux dire, donc, la relation existe. J'en ai l'expérience. Je ne la touche pas, mais j'en ai l'expérience. J'ai l'expérience dans l'amour d'amitié que sur la type. J'ai l'expérience dans la similitude et dans l'égalité qu'il y a une certaine relation, qu'il y a des liens. Mais j'ai l'expérience aussi d'un type de relation qui n'existe que dans mon intelligence. Et ça aussi, c'est toujours très important de le comprendre. Mon intelligence est capable de créer des relations. Mon intelligence n'est pas capable de créer des qualités, ça serait trop commode. Je voudrais vous rendre un peu plus intelligent. Alors je créerai des qualités. Je peux vous rendre un peu plus dépendant. C'est terrible. On peut revisser les écrous. On ne peut pas créer une qualité, mais on peut créer des relations. Par exemple, quand je connais sous un mode abstrait. Et en connaissant sous un mode abstrait, en connaissant du mode abstrait, j'ai quelque chose de nouveau. Je connais une forme capable de mesurer une quantité de réalité et de faire que toutes ces réalités sont relatives à cette forme. Pensez blanc, hein, on prend toujours blanc. Je pense la blancheur. Si vous pensez la blancheur, vous pouvez mettre relatif à cette blancheur le blanc du mur, le blanc du visage, le blanc de la neige, et ainsi de suite. Vous faites une relation. Vous avez créé vous-même cette relation. Est-ce que la relation de votre idée de blanc avec la neige, avec le vêtement, avec le visage, avec le téléphone blanc. Est-ce que cette relation, vous l'avez créée? Est-ce qu'elle existe dans la réalité ou si elle n'existe que grâce à votre intelligence? Donc c'est vous qui l'avez créée. Il y a donc des types de relations que l'intelligence est capable de créer. L'universel, un mot que je dis universel, une idée que je dis universelle, c'est l'intelligence qui lui donne ce privilège d'être universel. Vous n'avez jamais vu l'universel dans le réel. Alors, l'universel, c'est l'intelligence qui réalise cela. Et en créant l'universel, l'intelligence crée des relations. Il y a un tissu de relations. L'intelligence rapporte, relie. Blanc est un terme universel qui a tout un faisceau de réalité qui le ramène à blanc. Et ça, c'est l'intelligence qui crée ça. C'est l'intelligence qui réalise ça. Parce que l'universel n'existe pas dans la réalité. Il n'existe qu'une forme universelle, du moins. Il existe dans la réalité telle ou telle forme, mais cette forme universelle, selon ce mode universel, il n'existe que dans l'intelligence. Donc l'intelligence est capable de créer l'universel. Je constate l'existence d'une relation qui n'est pas réelle. Alors vous y perdez votre latin. C'est vite perdu. Alors, vous constatez l'existence d'une relation qui n'est pas réelle. Vous la constatez. Puisque vous constatez que l'universel blanc est en relation avec le mur, avec la bille, avec le téléphone, et ainsi de suite. Vous constatez cette relation. Et en réfléchissant sur cette relation, vous dites cette relation, elle n'existe pas réellement. Elle n'existe que dans mon intelligence. Je peux donc constater des réalités qui existent indépendamment de moi et des réalités qui n'existent qu'en fonction de ma connaissance. Et je dis que ces réalités qui existent qu'en fonction de ma connaissance, ce sont des relations d'un type tout à fait différent. Puisqu'elles n'existent qu'en fonction de ma connaissance, alors que les autres existaient indépendamment de ma connaissance. L'amitié, elle existe même si personne ne la connaît. Nous resterons des amis secrets, personne ne le saura. L'amitié existe. On la constate comme une réalité. Mais elle existe indépendamment de la connaissance. Elle existe plus fondamentalement que la connaissance. Je suis donc, voyez, en présence de l'exister de toute une série de relations diverses. Et je suis en présence d'une relation très particulière qui semble n'exister que dans ma connaissance. Et à partir de ma connaissance. Je crois que ce sont les différents types de l'exister du relatif que nous touchons là. Et c'est tout de suite très important de comprendre justement que cet exister se donne dans la diversité. Vous voyez la différence avec l'ousia. L'ousia, vous n'avez pas du tout constaté diversité de l'ousia. Non, l'ousia subsiste. Je montre au contraire à ce moment-là l'unité de l'exister de l'ousia. L'ousia subsiste. Tandis que quand je suis en face du relatif, tout de suite, une diversité. Le propre de la relation, c'est d'être dans un état d'éclatement. C'est l'être qui éclate. Il est vers un autre. Donc il éclate. Il est vers un autre. Et ce vers un autre, tout de suite dans la diversité. Vous ne pouvez pas ramener la relation à un seul type. Impossible. C'est très curieux, ça, de constater tout de suite la diversité du relatif. Tout de suite. Et de constater l'unité de l'ousia. Il faudra expliquer pourquoi. Comment se fait-il que vers l'autre, vers un autre, est toujours dans la diversité. Le hab, le fameux hab, ou le prof. Il est par nature divers, parce qu'il est proche à un autre proche. Il est proche vers un absolu. Il est proche vers un connaissant. Alors tout de suite, ces différents aspects d'être tourné vers un autre qui n'est pas lui-même, et un autre qui est parfaitement autre. Regardons maintenant, après le point de vue de l'exister, regardons maintenant le tiesti. Ce qu'est la relation. La nature. Du point de vue de l'être, qu'est-ce que c'est que la raison comme mode d'être? Comme mode d'être. Je vois qu'il existe, mais l'exister ne me dit pas ce qu'il est. Il faut donc interroger de nouveau pour comprendre ce qu'est la raison. Toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu,